Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Victoria Mas, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Albin Michel un premier roman, Le bal des folles. Alors ce premier roman est déjà salué par le prix Stanislas et le prix Première Plume 2019. Vous êtes aussi lauréate du prix Patrimoine 2019 et aussi en lice pour le prix Renaudot et le prix Femina. Alors c'est magnifique pour un premier roman, c'est toutes les fées se sont penchées sur vous et sur votre livre.
Exactement.
Alors, comment c'est votre premier roman, donc avant vous avez travaillé pour le cinéma, c'est ça ?
Exactement, j'ai commencé à faire mes premières armes dans l'audiovisuel en tant que script et assistante de production. Et ensuite, j'ai fait de la traduction, de la rédaction, voilà, un petit peu en freelance. Et à côté, j'écrivais des romans.
Vous avez écrit des romans, donc qui ne sont pas publiés, qui...
Voilà, il y a quelques manuscrits dans les tiroirs et ils resteront dans les tiroirs. Le bal des folles est mon premier roman publié.
Alors, ce titre incroyable, comment êtes-vous tombée sur cette histoire ? C'est une parenthèse de 20 ans, je crois.
Oui.
Voilà. Alors, comment avez-vous rencontré cette histoire ? Alors, présentez-nous le livre avec Jean-Martin Charcot, l'hypnose, tout ça. On a très envie d'écouter.
Alors, en fait, tout est parti d'il y a 2 ans lorsque je me suis rendue à l'hôpital de la Salpêtrière, qui est un hôpital qui existe toujours aujourd'hui à Paris. Et j'ai découvert ces lieux absolument incroyables. On dirait vraiment une sorte de petite cité au sein du 13e arrondissement de Paris. Et j'ai été assez interpellée par les pierres, l'architecture, et j'ai voulu en savoir plus sur l'histoire de cet hôpital. Et il se trouve que mon intuition fut juste, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses au sein de la Salpêtrière, et notamment ce fameux bal des folles qui avait lieu fin 19e. Pour remettre un petit peu en contexte, du coup, l'hôpital de la Salpêtrière fin 19e internait principalement des femmes, donc des hystériques, des nerveuses, des épileptiques, des schizophrènes, sous l'égide du docteur Jean-Martin Charcot. Et chaque année était organisé à l'occasion de la mi-carême un grand bal au sein même de la salle de l'hospice dans l'hôpital, où ces femmes revêtaient des costumes de carnaval et le tout Paris mondain se pressait pour côtoyer ces folles de près. Donc c'était une sorte de grand événement qui mélangeait un public entre guillemets normal et les folles aussi qui était interné comme une sorte de cirque humain.
Alors pourquoi est-ce que comment est-ce que ces femmes arrivaient à être internées, envoyées par leur mari, donc la condition féminine au 19e siècle est complètement désastreuse. Et on pense aussi à Camille Claudel qui a été internée parce qu'elle dérangeait au niveau de son art qui entrait en collision avec celui de Rodin. La condition des femmes, donc elles pouvaient être internées si elles dérangeaient au sein de leur famille.
Bien sûr, on est vraiment dans une société patriarcale, donc vraiment régie par les hommes. Donc c'était les pères ou les époux qui décidaient de la place et du destin de leur femme ou de leur fille. Et au sein de l'hôpital, c'était uniquement des médecins hommes qui du coup s'occupaient de soigner ces femmes et d'essayer de soigner leur corps. Camille Claudel, en effet, vous en parlez très justement, c'est l'exemple type de l'enfermement de confort ou l'enfermement abusif. Je m'en suis inspirée, mais après, elle rentrait pas dans le contexte de l'époque non plus. Donc, il y avait des femmes qui avaient vraiment, au sein de la Salpêtrière, besoin d'être prises en charge, qui souffraient véritablement de troubles neurologiques et de troubles nerveux. D'autres, au contraire, dérangeaient soit leur famille, soit la société. Donc, c'est ça qui m'a aussi interpellée et qui m'a fait approfondir cette histoire. Et je voulais comprendre pourquoi ces femmes se retrouvaient au sein de cet hôpital, qui elles étaient vraiment, pourquoi elles étaient et quelles étaient les méthodes de traitement qu'on utilisait. Voilà, c'était vraiment une sorte de porte ouverte dans tout un univers que j'ignorais complètement.
Alors, ce bal des folles a été inventé par Jean-Martin Charcot, le neurologue mythique.
Jean-Martin Charcot est arrivé à la tête du secteur des hystériques en 1870 et peu de temps après, en effet, ce bal des folles a commencé à être organisé. On en trouve les premiers écrits autour de 1882 et ça a vraiment duré pendant une vingtaine d'années. C'est poursuivi même après la mort du docteur Charcot. Jusqu'au début du XXe siècle, on en trouve encore des traces. Et puis petit à petit, il s'est fait oublier au cours des décennies suivantes. On a abandonné cette pratique jusqu'à vraiment tomber dans l'oubli. Ce qui fait que moi, quand j'ai appris que ce bal des folles existait, que j'en parlais autour de moi, c'était vraiment l'étonnement général, ce qui m'a fait dire que ce n'était pas un épisode anecdotique non plus, c'était pas un fait un peu banal dans l'histoire de l'hôpital. Je trouvais que ça reflétait vraiment tous les travers d'une société d'époque, hein, c'est-à-dire une société voyeuriste qui exhibait au final des patientes dans un hôpital, ce qui semble incongru aujourd'hui. Une société évidemment patriarcale qui enfermait ses femmes soit au sein des foyers, soit au sein d'un hôpital, mais aussi une société extrêmement paradoxale, puisque moi j'aime beaucoup le 19e siècle, c'est une période qui a réussi à produire les grandes œuvres de la littérature française et qui en même temps était incapable de soigner décemment ces femmes en souffrance.
Comment les soignait-il ? Quelles étaient ces méthodes? Et parlez-nous un petit peu donc des séances d'hypnose par lesquelles passaient ces patientes, ces malades.
Alors à l'époque, pour soigner vraiment les hystériques, on avait trouvé des crises d'hystérie chez les hommes, mais on pensait que c'était vraiment principalement lié aux femmes et lié notamment à leur sexe. Donc on travaillait cette zone-là. J'ose dire. Donc on avait des compresseurs ovariens pour appuyer sur les ovaires en cas de crise ou pour essayer de les détendre. On avait ce qu'on appelle la cautérisation du cervix, c'est-à-dire l'introduction d'un fer chaud dans le vagin pour détendre les nerfs, les contractions, etc. Et en effet, après on avait aussi l'utilisation des terres, de chloroforme pour les calmer. Hein. Et on avait aussi, ce dont vous avez parlé, Charcot avait mis en place en fait des séances d'hypnose, mais publiques, dans lesquelles, en fait, il mettait ces femmes sous hypnose afin de recréer des crises d'hystérie chez elles pour essayer d'en comprendre, en fait, l'origine, le fonctionnement, le processus. C'était une méthode qui était assez décriée, notamment par l'école de Nancy, qui déplorait, le fait qu'on mettait ces femmes sous hypnose alors que, lorsqu'elles arrivaient sur scène, elles n'avaient rien et en repartant, elles avaient une crise d'hystérie, donc on les rendait volontairement malades, mais aussi le fait qu'on les exhibait face à un public, les cours d'hypnose de Charcot, il y avait vraiment 300-400 personnes qui venaient assister là, et pas seulement des médecins. On avait des mondains, des bourgeois, des journalistes, des écrivains. Donc il y avait vraiment une mise en scène de la maladie qui était critique à l'époque, et aujourd'hui, à notre époque, avec le recul qu'on a, et semble évidemment absolument totalement indécente.
Alors, ce bal, c'est une de ces dernières expérimentations du docteur Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes normales.
Mm-hmm. Oui, je pense qu'il y avait deux choses en fait dans ce bal des folles. C'est vrai que ce bal permettait aux femmes de retrouver un semblant de normalité et surtout un contact avec le monde extérieur dont elles étaient coupées. Donc pendant une fois par an, elles avaient la possibilité de s'habiller, de penser à autre chose, d'écouter de la musique, de danser. Et c'est vrai que les semaines qui précédaient la préparation du bal, il y avait beaucoup moins de crises d'hystérie dans le secteur et ces femmes se détendaient. Donc c'était, on va dire, assez thérapeutique pour elles. Mais le mauvais côté de la chose est que ce qu'elles ne voyaient pas, c'est que elles étaient exposées aux yeux d'un Paris mondain qui était extrêmement voyeuriste, qui ne voulait pas voir ces femmes dans les rues, mais qui a accepté de les voir enfermées une seule fois par an, en espérant qu'elles fassent une crise d'hystérie, qu'il y en ait une plus agitée qu'une autre, essayer de voir quelque chose d'un peu étrange qui sort de l'ordinaire. Et je pense que c'était une volonté de Charcot aussi de promouvoir un petit peu son travail et promouvoir ses travaux sur l'hystérie auprès d'un public non pas seulement de médecins et de scientifiques, mais aussi d'un Paris beaucoup plus mondain, comme on en a dit tout à l'heure, fait de bourgeois et d'aristocrates.
Alors, ces malades, ces aliénés présentés au cours d'une séance de crise devenaient parfois des stars. Et des stars que l'on admirait, que l'on adulait, auxquelles on voulait ressembler au sein de cette collectivité de malades mentales.
Oui, ça semble très étrange aujourd'hui de dire justement que on parle vraiment de patientes, de femmes qui avaient besoin d'être prises en charge et qui étaient exposées. Elles étaient non seulement mises en avant sur scène tous les vendredis, exposées une fois par an, et certaines d'entre elles aussi étaient beaucoup prises en photo. Charcot a mis en place toute une iconographie de la salpêtrière où on connaissait leurs visages et certaines, notamment, je pense au cas d'Augustine ou de Blanche Wittmann, étaient aussi connues que des actrices de boulevard à l'époque. Donc voilà, encore une fois, il y avait une mise en avant, une mise en lumière sur ces femmes qui n'avaient jamais rien connu d'autre et qui se sentaient valorisées grâce à un docteur qui leur donnait un peu de notoriété, un peu d'attention, ce dont elles avaient souffert jusqu'ici. Oui.
Alors, vous présentez Eugénie, 19 ans, il y a aussi la petite Louise, il y a comme ça des visages importants de ces femmes qui forment l'architecture de votre roman.
Oui, j'ai essayé de construire des personnages féminins forts. Déjà, je voulais pas que ce soit des victimes. Je voulais pas avoir de personnages passifs. Je voulais pas qu'elles subissent leur situation, mais qu'à un moment, elles arrivent à s'émanciper, à faire un choix radical qui change leur vie. Eugénie, on en a parlé tout à l'heure, peut faire un peu penser à Camille Claudel dans le sens où, en effet, elle se retrouve internée de force par sa propre famille, alors qu'elle ne souffre absolument pas de troubles neurologiques. Elle a juste un don. Mais c'est un don que son père ne supporte pas et ne veut surtout pas avoir chez lui, donc il l'a fait mettre à la salpêtrière. Le personnage de Louise est très inspiré d'Augustine dans le sens où c'est la plus jeune internée du secteur et qu'elle a de très nombreuses crises d'hystérie et qu'elle est du coup beaucoup mise en avant par Charcot. Et elle garde en effet une sorte d'innocence agréable et plaisante et presque nécessaire tout au long du roman. On a également le cas de Thérèse, qui, elle, au contraire, est la plus ancienne, aliénée du service, et qui, elle, ne veut surtout pas sortir de la salpêtrière, parce qu'elle y a trouvé un certain réconfort et surtout une sécurité vis-à-vis du monde extérieur, qui était beaucoup trop violent pour elle, et voilà, pour rien au monde, elle ne voudrait en sortir. L'idée, c'était pas de peindre un portrait trop négatif non plus de cet hôpital, puisqu'il n'a pas été que néfaste aussi pour certaines femmes. Certaines femmes qui sont passées par la salpêtrière ont été soignées, ont pu en ressortir, et certaines femmes, au contraire, ne voulaient pas en sortir parce qu'elles y trouvaient une sécurité. Donc voilà, je voulais surtout pas tomber dans le manichéen, il fallait pas que ce soit les femmes contre les hommes, les internés contre les médecins, des pauvres femmes. J'ai essayé de peindre un portrait beaucoup plus nuancé et du moins juste, en tout cas. Voilà, pour moi, il y avait de tout, en fait.
Alors, ce roman est vraiment frappant par les pôles. Il y a donc la raison, il y a la folie, il y a le tout Paris, il y a la misère, puisque ces femmes vivent dans des petits réduits, c'est la misère des pauvres gens, c'est presque un roman qui fait penser à Zola. Est-ce que vous avez trouvé des images, l'iconographie aussi, votre documentation? Parce que moi, je crois que Charcot n'a pas écrit et que tout ce qu'on sait de lui, ce sont ses collègues, ce sont les gens qui ont parlé de lui.
Il y a beaucoup d'écrits sur Charcot, c'est ce qui m'a permis d'essayer de comprendre un petit peu cette figure très importante au sein de la salpêtrière. Après, Charcot ne devait pas être un personnage central pour deux raisons. D'une, parce que je voulais pas me permettre trop de liberté non plus avec un personnage qui avait existé. Je pouvais pas lui faire dire n'importe quoi, vous voyez. Mais voilà, après, la seule vraie scène où il intervient, je me suis inspirée d'écrits que j'avais lus à son égard, où en fait on le décrivait comme quelqu'un d'extrêmement charismatique, mais aussi d'extrêmement autoritaire. On comparait notamment beaucoup à Napoléon, parce qu'il suffisait qu'il arrive dans une pièce et que la salle se taise. Et voilà, il savait ce qu'il dégageait. Le point de vue de Charcot, je voulais vraiment l'écrire du point de vue de ces femmes, en fait, qui, au final, le voyaient très très peu. Il venait très peu au sein du secteur des hystériques. Il côtoyait très peu ces femmes de près. Et du coup, ça alimentait une sorte de mystique autour de lui, et plus on en entendait parler, plus on voulait savoir qui il était, on voulait l'approcher, on voulait le connaître. Donc c'était important d'avoir le point de vue des femmes vis-à-vis d'un médecin un peu mystérieux, mais qui pouvait aussi vous rendre célèbre si vous étiez assez hystérique à ses yeux, on va dire.
Alors, Charcot a beaucoup inspiré Sigmund Freud, qui a été son élève, brièvement.
Tout à fait. Tout à fait. Ça a été son élève. L'idée, c'était pas non plus de faire un roman à charge contre Charcot, puisque c'est vraiment le fondateur de la neurologie moderne. Il a contribué à de nombreuses avancées dans la médecine. Il a inspiré, comme vous le disiez, Sigmund Freud et Pierre Janet. Mais je encore une fois, il s'agissait de parler des femmes aussi. Et c'est vrai qu'on est à une période charnière à ce moment-là où, en fait, on commence avec Charcot à s'intéresser aux traumatismes qu'ont vécu ces femmes. C'est-à-dire que la majorité des femmes qui étaient internées à la Salpêtrière avaient vécu des violences, des maltraitances, des abus, des viols durant leur jeunesse. Mais on n'est pas encore arrivé à la naissance de la psychanalyse avec Freud. C'est Freud, après l'élève de Charcot, qui deviendra le maître de ça et qui fera comprendre qu'en fait, les troubles de ces femmes n'étaient pas nécessairement neurologiques, mais en fait résultait de troubles de l'ordre de l'inconscient et de traumas qu'elles avaient refoulés aussi. Donc c'est vraiment une période, pour moi, cette génération de femmes dont je parle dans le livre, puisque le livre se situe vraiment en 1885, ce sont les dernières à pâtir des lacunes de la neurologie avant la bascule vers l'étude de la psyché. Et voilà, les méthodes de traitement qu'on a utilisées sur elles, on s'est rendu compte après que non seulement elles n'étaient pas efficaces, mais qu'en plus elles étaient peu éthiques. Donc c'est comme si ce par quoi elles étaient passées était un mal nécessaire pour épargner les générations suivantes.
Victoria Mas, comment s'est passée l'écriture de ce livre ? Est-ce que ça a été rapide, facile ? Est-ce que vous avez souffert à revenir avec des repentirs, des reprises ? Comment avez-vous vécu ce livre ?
Bien, tout d'abord, j'ai commencé par beaucoup me documenter à partir du moment où je savais que je voulais en écrire un roman. Donc j'ai fait 2 mois de documentation, de recherche, j'ai lu des ouvrages, notamment de Yannick Ripa, une historienne qui s'est beaucoup intéressée au cas de la folie chez les femmes au XVIIIe et au XIXe siècle. Je me suis plongée dans toute l'iconographie de la Salpêtrière, vraiment tout ce que je pouvais trouver allait me servir. Une fois que j'estimais avoir assez d'informations et d'éléments importants pour comprendre ce que la Salpêtrière devait être, comprendre le contexte social et moral de l'époque, j'ai fait des fiches personnages, parce que pour moi c'était absolument fondamental de construire des personnages en amont, parce que c'est elle, puisqu'on parle principalement d'héroïne, qui allait porter le roman. Et ensuite je l'ai vraiment construit chapitre par chapitre, scène par scène. Il fallait que je sache exactement où j'allais du début à la fin pour ne pas me perdre, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais surtout pas improviser, partir et me perdre trop loin non plus. Donc en fait, cette structure de départ m'a permis au contraire d'improviser et de prendre quelques libertés tout en sachant où il fallait que je revienne et quand. Et donc, moi, ça m'a absolument passionnée de l'écrire parce que j'ai été vraiment prise d'une profonde empathie pour ces femmes. Je voulais essayer de leur donner aussi bien que possible une voix, une identité, puisque j'ignorais leur existence. Et quand j'en parlais autour de moi, encore une fois, personne n'avait entendu parler de ces femmes. Et pour moi, ce qu'elles avaient vécu n'était pas du tout anodin. Donc, voilà, je me suis remise dans un Paris du 19e aussi, qui est une époque que j'apprécie beaucoup. Donc, ça a été une écriture où j'étais vraiment dans le passé à ce moment-là.
Et pour l'envoi aux éditeurs, vous l'avez envoyé à plusieurs éditeurs ou bien un seul, ça a fait mouche ?
Je l'ai envoyé à quelques éditeurs pour commencer. Et ensuite, non, j'ai eu la chance inattendue de rencontrer une romancière et une éditrice qui s'appelle Jessica Nelson. Et c'est elle qui a lu le roman et qui l'a porté à Albin Michel. C'est grâce à elle, grâce à cette rencontre totalement fortuite, que ce roman a pu trouver une belle maison.
Alors, une belle maison, un bel avenir magnifique qui se dresse devant vous. Victoria Mas, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre premier roman, Le bal des folles, et qui a déjà un très bel avenir devant lui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but you watch her so sadly. She smiles, but she doesn't see. She doesn't see.
Claire Castillon, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard un nouveau roman dont le titre est « Marche blanche ». Alors dire que vous êtes romancière, nouvelliste, que vous avez écrit plusieurs romans, dont « Ma grande », et puis le livre qui nous réunit aujourd'hui, c'est « Marche blanche ». Il y a eu aussi, bien sûr, des nouvelles qui ont été couronnées de succès, traduites en plusieurs langues. Il y a « Insectes », il y a « On n'empêche pas un petit cœur d'aimer », et puis il y a « Les bulles », et rebelles un peu. Est-ce que vous aimeriez revenir sur l'un ou l'autre de ces textes ?
Oh, souvent je pense aux messieurs, c'est pas gentil parce que c'est celui que vous n'avez pas cité, mais j'aime bien les. C'est un recueil de nouvelles donc qui est sorti avant Rebelle un peu, qui parlait des adolescents et je sais pas pourquoi j'ai une espèce de tendresse assez forte pour ce livre qui à la fois m'amuse et que parfois les gens ont peut-être mal compris. Alors je crois que c'est pour ça que je l'aime encore plus, c'est-à-dire que parfois des hommes disaient « oh là là, mais c'est trop méchant ». Et en fait, moi ce qui me plaisait chez les jeunes filles qui parlaient de ces vieux hommes, c'était que dans la façon qu'elles avaient de les regarder, il n'y avait pas de mépris, il y avait la peur que l'homme puisse s'apercevoir qu'il était un peu dégoûtant dans ses yeux à elle. Et en fait, à chaque fois qu'elle regardait un homme comme ça, je sais pas, sa main sur le levier de vitesse, sa main un peu tordue, elle disait pas « oh, c'est affreux, il a la main tordue », elle disait « pourvu qu'il voit pas que j'ai vu que sa main était tordue ». Et c'est ce regard qui m'intéresse.
Par exemple, pour ce livre, « Marche blanche », on aurait pu lire un fait divers qui parle donc de la disparition d'une petite fille. Vous analysez cette descente dans la folie de la maman qui est dans le délire folle d'amour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, Marche blanche?
Oui, vous le dites très bien, c'est la tête de la mère en action et en marche, donc on est dans la tête de cette mère qui a fermé les yeux et compté jusqu'à 20 ou jusqu'à 40, je sais plus, lors d'un cache-cache avec sa fille dans un jardin public 10 ans auparavant, qui a rouvert ses yeux à la fin du cache-cache et qui n'a plus retrouvé sa fille et qui raconte la disparition, le kidnapping, enfin ce qu'elle en sait, ce qu'elle en pense, et qui raconte la vie depuis 10 ans à chercher l'enfant, à analyser le moindre signe, à espérer dans ce village avec son mari. Donc elle nous raconte cette vie-là et puis elle raconte aussi la vie d'avant, c'est-à-dire la vie de quand l'enfant était là. Et elle le raconte avec des choses auxquelles on s'attend pas forcément, c'est-à-dire que la mère éplorée qu'a perdu son enfant est capable d'avoir le regard vrai et de dire mais en même temps quand l'enfant était là, mais c'est pas vrai, c'était pas bien, c'est pas vrai que c'était le paradis parce que je le raconte comme ça maintenant qu'elle a disparu, mais au fond son père était tout le temps parti parce que être papa ça l'intéressait pas tellement. Moi je me retrouvais avec la petite et c'était tellement difficile de l'occuper alors que moi aussi j'aurais bien aimé aller faire du vélo. Et en fait on voit cette mère qui raconte petit à petit la vérité de la vie d'avant et donc la vérité totale.
Alors, la maman, 10 ans après la disparition de sa petite fille Hortense, que vous l'avez dit, pendant le temps d'un jeu de cache-cache, elle ouvre les yeux, l'enfant n'est plus là. Il y a aussi donc le mari, le papa de l'enfant qui est là, qui semble très bienveillant, très, très soucieux de la santé mentale de sa femme. Et elle lui dit, et ça j'ai adoré, comment vous l'avez dit, lorsque tu me regardes au fond, c'est-à-dire on connaît ces regards de ceux qui comptent pour nous et pour qui l'on compte, quand ils posent leurs yeux sur nous, on dirait qu'ils rentrent au fin fond de notre cerveau. Regardez au fond, donc le mari est là et moi je le sens, puisque moi je n'ai que ma réflexion de lectrice, je le sens très bienveillant, très utile finalement.
Oui, je pense qu'il joue son rôle, il est là pour la protéger, il est là pour chercher l'enfant, puisqu'il continue en effet 10 ans après à coller des affiches partout. Il sait que c'est cette recherche aussi qui tient sa femme en vie. Et je pense que oui, il est là, et sans doute que dans son fort intérieur, il sait qu'à l'époque, il n'était pas tellement là. Donc ça, il en parle jamais dans le livre, il en est pas question, mais elle, avec ironie, dit souvent, ah voilà, en gros, maintenant tu cherches et donc t'es là, t'as jamais été aussi bon père que depuis qu'il n'y a plus d'enfants. Mmh. Mais on ressent chez cet homme, en effet, une extrême présence généreuse, patiente, parce qu'elle est pas commode, douce et... C'est quelqu'un aussi qui serait capable de rester dans la vie et d'y retourner, qui a proposé un autre enfant, qui propose parfois des voyages. C'est quelqu'un d'amoureux, au fond.
Et lui, il ne croit plus du tout, apparemment, d'après ce que j'ai compris, retrouver cet enfant. Bien qu'avec Photoshop, ils aient pu agrandir et puis transformer le visage de la petite de 4 ans en ce qu'elle pourrait être. À 14 ans, il fait ce qu'elle veut, comme vous l'avez dit. Il colle les flyers, il cherche partout, mais il semble ne pas y croire du tout. Elle est seule dans son délire.
Oui, dans le délire, oui. C'est-à-dire qu'elle, en effet, déniche quelques pistes. Donc, si elle trouve une moufle dans la forêt, elle se dit « Tiens, à qui est-elle ? On va la faire analyser, c'est sûrement... » Enfin, elle trouve des choses et elle les invente. Là, il la suit. C'est pas par courtoisie, c'est vraiment parce qu'il se dit ça l'occupe, un peu comme on se dit, tant qu'une personne âgée est occupée, au moins, elle pense pas à la mort. Elle, mm-hmm. C'est un peu ça. On l'a... Il rentre dans le jeu, je pense qu'il a pas tellement d'espoir, mais il sait que s'il arrête de chercher, elle arrête de vivre, donc il continue.
Elle n'est pas naïve, puisque lorsqu'elle rentre à la maison et qu'il y a son mari, qu'il y a peut-être des amis, qu'il y a peut-être la sœur du mari, la belle-sœur, elle se dit « Ah, il faut que je trouve une phrase à dire pour avoir l'air normal, détendu, un petit peu cicatrisé. » Elle sait que elle peut aussi donner le change et elle joue quelque part aussi.
Oui, parce qu'elle a remarqué que elle a pas très envie qu'on l'envoie chez le docteur, qu'on lui demande de prendre des médicaments, des choses comme ça pour être moins déprimée. Donc elle se dit, il faut que je fasse le service minimum. Le service minimum, c'est en gros dis bonjour et fais un sourire. Mais l'ennui l'envahit tellement et elle est pas capable en fait de vivre un déjeuner chez la sœur de son mari. Pour elle, c'est l'enfer. Donc elle est obligée de chercher, de se dire tiens, mais quelle phrase je vais pouvoir leur dire ? Quelle est quels sont les mots que je vais pouvoir prononcer qui vont me foutre la paix en gros et que au moins ils auront vu que je suis normale, je suis capable de dire merci, je suis capable de dire quelque chose et on pensera pas à ma douleur ou en tout cas on me la jettera pas à la figure. Voilà. Donc elle agence en fait son quotidien.
Elle l'agence, oui. Et ça se passe dans un pays froid, la montagne, qui impose son climat rude. Et ce climat joue un rôle important dans le paysage psychologique de notre héroïne, de la narratrice en tout cas.
Oui, je pense que c'était important. L'histoire s'est déployée comme ça dans ma tête. C'était la montagne, mais c'était pas la montagne magnifique, c'était pas la haute montagne splendide, c'était une espèce d'intermontagne, pourtant tout le temps enneigée, mais grise, et puis bleu, et puis pourtant il y a de la neige, et puis je sais pas exactement où elle est, j'ai inventé beaucoup de noms de villes. Il fallait qu'elle soit comme ça, j'avais très envie d'imaginer cette espèce de glaciation totale.
Et c'est tellement bien rendu que c'est tout à fait plausible qu'elle entende des voix dans ces forêts, dans cette neige, et vous dites qu'elle roulait toujours en voiture, fenêtre ouverte, pour peut-être cueillir au détour d'un sentier une voix d'enfant qui crie « Maman !», un appel au secours, et ça rend encore plus... le paysage est hanté, et cette folie, de ce délire, ce délire d'amour de la mère, s'incarne aussi dans notre esprit, et nous entendons ces voix, et nous y prêtons parfois attention.
Oui, je pense que c'est ça le délire d'amour. C'est vraiment le bon mot. C'est que de toute façon, c'est nourri par ça. En fait, elle peut pas l'arrêter. Je sais pas comment dire. C'est
C'est constitutif de son vécu.
Oui, peut-être pas d'elle-même, mais de sa douleur. Voilà. Et à partir du moment où c'est le seul lien qui la rattache à sa fille, même si on lui dit qu'il faut pas, ben, si l'amour ne doit pas s'arrêter, le délire ne doit pas s'arrêter, en fait. Et quelque chose comme ça, ça tout va ensemble.
Et il y a aussi une réflexion sur le couple et sur l'arrivée d'un enfant dans un couple. Un couple, c'est normalement, c'est harmonieux, ce sont des individus qui se trouvent, qui se complètent, qui peuvent avoir des loisirs ensemble, qui ont des moments agréables. Et voilà que l'arrivée d'un enfant met une croix sur ces deux individus qui se sont trouvés un petit cocon de confort psychologique, puisqu'il n'y a plus que il faut vivre pour l'enfant, se réveiller lorsqu'il la nuit, avoir peur pour sa fièvre. Le couple est miné de façon fondamentale par l'arrivée d'un enfant. Bien sûr, c'est l'avènement d'un autre ordre, mais le niveau de cette harmonie qu'il y avait entre deux personnes d'un couple, c'est pulvérisé, c'est atomisé par la venue de l'enfant.
Oui, c'est ça. Ces deux-là sont incapables de devenir parents ensemble. Donc, elle remplit son rôle, lui, sans doute, quand elle va faire un tour. Mais ensemble, ils sont pas capables. Et on voit comme ils étaient complices et comme soudain, tout est devenu compliqué, lourd, ennuyeux, impossible. Et elle raconte comme ça un voyage qu'ils font au bord de la mer où chacun rêve d'aller nager très loin. Donc, lui le fait et elle est coincée sur le sable avec ce bébé. Et en fait, une fois que la petite n'est plus là, elle dit ça manque parce qu'on peut respirer qu'avec sa respiration entre les deux nôtres. Et en même temps, elle reconnaît qu'ils n'ont pas été capables d'être parents. Elle parle aussi d'une sortie où elle était avec sa fille à un festival de musique country et où elles dansent toutes les deux parce que pour le coup, il y a une attraction autour, donc elle s'amuse bien. La mère a l'impression que le spectacle s'occupe de l'enfant, donc elle respire. Et puis elle passe un bon moment, et là, Carl appelle, et elle se dit « Zut, j'ai pas envie qu'il vienne, parce que s'il vient les 5 dernières minutes, il va nous obliger à rentrer très vite, parce qu'il aura envie de partir tout de suite. Or, on est bien, on a envie de rester. Il va casser notre fête, et en même temps, on devra se dépêcher d'être dans notre ambiance à trois qui marche pas. » Donc, rien n'est fluide dans cette famille-là au moment de l'arrivée de l'enfant et même après, puisqu'elle disparaît à 4 ans.
Alors, une question banale pour un texte si fort, si original, si brillant. Quelle est l'amorce, la première molécule de la naissance de cet univers, de ce livre Marche Blanche, un fait divers ou parce que on aurait pu lire des choses analogues dans les journaux.
Oui, bien sûr, mais non, moi c'est l'envie d'écrire sur la fugue en fait et sur une femme qui s'en va. Avec la difficulté que raconter quelqu'un qui fugue, c'est raconter quelqu'un qui disparaît, qui n'est pas là. Et c'est vrai que, du coup, comme à chaque fois, je prends pour héros la personne qui disparaît, j'ai beaucoup de mal à le raconter parce que moi, je voudrais qu'elle soit pas là vu qu'elle a disparu. Or, c'est le narrateur. Donc voilà, je me heurte à un drôle d'écueil quand j'écris sur ce thème et je pense que je tourne autour de ce thème et que je me suis dit, tiens, la disparition, c'est une forme de fugue, même si là, c'est pas la même chose. Et j'ai eu très envie de raconter ça. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de vécu de maman, enfin de moi au parc, assise, regardant mal à un moment et tout à coup me disant, oh, où est mon enfant ? Et ce que ça peut faire en une fraction de seconde au cœur et à la tête. Je voulais raconter ça.
À quel autre de vos livres pourriez-vous rattacher, bien qu'on reconnaît immédiatement pour ceux qui vous connaissent, qui lisent vos textes, on reconnaît le style et le côté incisif, aigu de l'idée, de l'influx nerveux qui traverse vos mots. Quel est l'autre livre que, lorsqu'on a aimé Marche Blanche et qu'on vous découvre, et quel est l'autre livre qui pourrait continuer à alimenter ce plaisir ?
peur, hein. C'est difficile, je pense, je sais pas pourquoi je pense aux cris. J'avais écrit Les Cris, je pense, en 2009 ou 10, je sais plus exactement, et qui racontait aussi l'histoire d'une femme vraiment habitée. Alors là, c'était pas par son délire, mais quand même, c'est une femme après une rupture amoureuse, en fait, qui est soudain envahie par le monstre textuel qui devient sa compagnie, qui lui donne des ordres. Et c'est donc à la fois le descriptif de la rupture et de la douleur, et en même temps cette étrangeté au monde pour l'héroïne qui est écrivain et qui se retrouve habitée par un monstre textuel, et le texte va remplacer l'absent, finalement. Voilà, je pense à ça. Je pense à Eux, qui était un livre aussi, un roman sur qui racontait l'histoire d'une femme enceinte qui a très peur de donner naissance à son enfant et qui subit les assauts des héréditaires, qui sont les gens autour. Voilà, je pense à ça.
Claire Castillon, merci infiniment pour ce livre très, très prenant, Marche Blanche. Et je vous ai dit que moi, en tout cas, je lis de façon active, puisque moi-même, je me mets à douter d'elle, de la maman, du papa. Je vois des indices que vos lecteurs n'ont pas vus. Et donc, Marche Blanche, un roman chez Gallimard, qui paraît aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.